Merci Jean-Pierre Amalric. J'étais heureux d'avoir dans votre bouche une réponse à une question que je me posais ce matin, qui est d'où vient que Saint Antonin soit protestant ? Est une histoire de république protestante. Vous avez un peu répondu à cette question-là. Je ne parle pas du ressentiment d'autres communes que vous avez évoquées, ça c'est plus familier pour nous ici, mais ça, je ne l'avais jamais encore entendu. La question que je voulais poser, moi, c'est sur la campagne de Louis XIII, d'une façon générale. Pour moi, elle me paraît être une campagne d'un genre qui n'a pas beaucoup de précédent, où le roi de France utilise son armée contre ses sujets. Je ne sais pas si on a beaucoup de précédents, je ne pense pas qu'on puisse comparer avec la croisade des Albigeois qui était pilotée par le pape. Ou, ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais là, aucun de vous n'en a parlé de cet aspect des choses qui n'est pourtant pas tout à fait naturel. Les gens, enfin les Français, même de cette région-ci, étaient déjà complètement des sujets. Voilà, plus encore qu'à l'époque des croisades que j'évoquais. Donc, comment est-ce que c'est vraiment une particularité de cette opération par rapport à d'autres avant ? Et deuxièmement, si c'est le cas, comment ça a joué ? Est-ce que ça a été contesté, dénoncé, cet aspect-là ? Le roi utilise l'armée royale contre ses sujets. Et est-ce que ça a été défendu dans ce cas ?
Alors, je dirais, je pense quand même qu'on pourrait évoquer certains précédents pendant la guerre de Cent Ans. Alors, vous me direz, bon, la guerre de Cent Ans, mais oui, mais il y avait deux, en fait, la France, c'était pas la France, parce qu'il y en avait deux, les uns contre les autres. Mais enfin, les campagnes de la guerre de Cent Ans, vous savez, quand on les regarde de la part des deux rivaux, atteignent des degrés de violence, parfois comparable, il me semble. Hein. Et c'est pas si loin, si vous voulez. On est, voilà. Ensuite, il est bien évident que cette brutalité du pouvoir souverain s'appuie sur une construction juridique, qui est une construction qui légitime l'absolutisme comme la condition sine qua non de la paix civile. Si le pouvoir royal ne s'exerce pas sans encombre et sans réserve, le royaume se déchire et c'est... Voilà. Donc c'est un mal, certes, que le roi doive user de ses moyens, mais c'est un mal qui doit en éviter un autre. Si vous voulez. Cette construction juridique qui est développée justement pendant les guerres de religion, mais qu'on trouve par exemple chez Jean Bodin, voyez, La République, et bien d'autres juristes en particulier de cette époque, c'est là-dessus, c'est sur cette conception, je pense, que s'appuie le jeune, ce roi de 20 ans. Car ce roi de 20 ans, quels sont ses critères ? Quelle est sa culture ? On a vu qu'il avait une certaine culture religieuse, parce que sa réponse dans le débat était quand même intelligente. Il a certainement aussi reçu une culture politique, et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il s'appuie. Alors après, bien entendu, les moyens dont il dispose, nous le voyons, sont notoirement insuffisants pour prévenir, ça c'est évident, les engrenages de violence dont on a là des exemples atterrants. Voilà. Mais c'est cette volonté d'imposer par la force une paix qu'on ne peut pas obtenir par les moyens de la paix, finalement, si je résume. C'est ça la justification. Hein ? Il avait une théorie, il avait un Conseil d'État derrière pour l'énoncer.
Oui, je dirais qu'il y a un autre précédent, alors qu'il ne s'est peut-être pas réellement produit, mais qui est évoqué, c'est la Saint-Barthélemy, quand, après le massacre, le roi revendique la paternité du massacre. Oui, donc c'est d'une certaine manière, dire a posteriori, même si les choses ont sans doute dérapé et qu'il n'y était pas pour grand-chose, au moins dans le massacre généralisé, c'est quand même dire que le roi peut accepté le massacre de ses propres sujets pour éviter effectivement un mal. Donc c'est la justice retirée du roi, qui est une conception juridique, alors Pierre-Jean la connaît mieux que moi, je pense, mais qui est assez courante à cette époque-là. Même si, je pense qu'on pourrait aussi évoquer cela.
Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre-Jean. On aimerait entendre son point de vue.
Je ne sais pas, un souverain qui prend ses troupes pour réprimer des sujets révoltés, c'est de l'ordre du droit et de la justice qu'il exprime. Enfin, la question, est-ce qu'il y a eu des précédents ? Moi, je pense que la guerre de 100 ans, effectivement, il y a de cette logique. Il y aura une suite avec Montmorency et la révolte de 1632. Par contre, après, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord sur... l'exercice, enfin Louis XIII, en tout cas c'est ce qu'il montre tout de suite lorsqu'il s'installe à Saumur, il destitue le gouverneur, qui est un ancien serviteur de son père et un ancien serviteur du parti, il nomme, et puis surtout quand il arrive à Saumur, il envoie son maréchal des logis une heure avant son arrivée, ça veut dire qu'en fait le gouverneur et la ville ne peuvent pas préparer l'entrée royale, qui est dû, c'est-à-dire que il empêche le gouverneur d'avoir un protocole politique dans lequel il pourrait manifester sa soumission, c'est-à-dire qu'il lui dénie le droit de s'exprimer politiquement, dans le sens où il leur envoie un sous-fifre dont il confisque le pouvoir. Et je pense que cette campagne, elle est marquée par ce saut d'une volonté. Là, il y a une génération politique qui veut affirmer l'autorité par la force. Je suis tout à fait d'accord. Sur la question juste de la mémoire c'est un des enjeux de pacification dans je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième article de l'édit de Nantes, il y a une obligation d'oubliance, la question de l'amnésie, la question de ne pas revenir sur tous les conflits et tous les massacres précédents interpersonnels sont écrits noir sur blanc, c'est-à-dire que le roi amnistie les faits de guerre. Et encore faut-il après les identifier, mais ça, il y a des juges qui vont le faire. Et il impose à ses sujets de ne pas revenir sur cette question-là. Et c'est un enjeu, alors moi je l'ai étudié à Toulouse, hein, la cérémonie de la délivrance du 17 mai est interdite par le roi et elle est renouvelée systématiquement par les Toulousains jusqu'à la Révolution française. Voilà, donc par les Capitouls. Et donc en fait, il y a la conservation de la mémoire du conflit religieux s'inscrit dans le refus d'obéir exactement à la loi du roi. Et donc, en fait, dans la réflexion de coexistence que je vous disais ce matin, théoriquement, ils n'ont pas le droit de s'en souvenir. Mais après, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que l'idée de coexistence et de l'inscrire dans le droit implique qu'on ne revienne pas et qu'on ne commémore pas des massacres ou des exactions qui ont eu lieu 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Or, ça c'est une doctorante de Valérie Sotokaza qui est Maïté Récassens, qui fait une thèse sur cette question-là de l'invention des processions pendant les guerres de religion. Or, en fait ce vœu-là légal, il est totalement battu en brèche par une société qui a besoin de commémorer.
Et par exemple, avec les confréries de pénitents qui existe, par exemple, à Villefranche de Rouergue, qui n'est pas loin et qui est extrêmement active. Donc, ce que je voudrais quand même peut-être dire, c'est que, Thierry, bon, certes, bon, des exemples en France récents, peut-être qu'on a du mal à les trouver, mais dans d'autres puissances européennes, au XVIe siècle, moi je pense à Charles Quint, allant faire ce qu'on appelle la pacification de Gand aux Pays-Bas. C'est en 1540, si je me trompe, et c'est une répression en Flandre extrêmement violente, alors que Charles Quint n'était pas un adepte de la violence. Voilà. Ah non, mais écoutez, Charles Quint se considérait beaucoup plus comme bourguignon que comme espagnol, il faut le savoir. Il a été élevé en France. Non. Donc, si vous voulez, il était chez lui, il a été élevé à Bruxelles. Hein, non, c'était pas du tout... des étrangers pour lui. Au contraire, c'était les plus proches de ses sujets. Et il leur a fait très durement sentir, alors que ce n'est pas un souverain qui était un forcené de la violence, pas du tout.
Alors, sur la question de la violence des soldats, on ne peut quand même pas le sortir de la culture de guerre de cette époque-là, c'est-à-dire la ville prise, malheur à elle, quoi, hein, c'est le droit de pillage. Et il y a une distorsion entre les souhaits des chefs de guerre, éventuellement d'éviter cela, et la réalité sur le terrain. Le sac de Rome, le connétable de Bourbon meurt en essayant d'empêcher les lansquenets d'aller piller Rome. Il y a un aspect là, et puis cet aspect, c'est aussi un aspect d'économie de la guerre qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un historien américain qui est John Lynn, qui a travaillé sur les armées de Louis XIII et Louis XIV, et il part du principe que les chefs de guerre autorisent ce qu'il appelle une taxe de la violence, tax of violence, qui fait qu'en fait, d'un point de vue logistique, jusqu'à Louvois, les armées des rois de France ne sont pas assez nourries, ne sont pas assez payées. Et les soldes sont en retard et elles ne sont pas au niveau attendu. Et donc, la possibilité de vivre sur le pays, la possibilité de récupérer dans le bagage de l'adversaire du butin dans les villes qui sont prises, fait partie d'un équilibre qui n'est pas systématique, mais d'un équilibre qui s'impose aussi aux chefs de guerre pour pas que les troupes se débandent. Donc, en fait, et c'est ce qu'on a vu, hein, il y a quand même à Saint-Antonin et à Nègrepelisse, il y a des massacres, et il y a du pillage de la ville, parce qu'ils ne disent pas qu'ils volent ce qu'il y a dans les maisons, mais il faut imaginer que les soldats, ils sont sortis des maisons avec des gros sacs. Hein. Donc, mais par contre, il y a d'autres phases dans lesquelles le roi va négocier. Et je pense que cette alternance de la grâce, de la négociation ou de la répression violente, elle se joue symboliquement, ça on l'a dit, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'elle peut se jouer aussi d'un point de vue très économique, c'est-à-dire qu'à un moment, la solde n'est pas arrivée, nos soldats, ils réclament de l'argent et ils réclament de quoi manger, et peut-être que la ville arrive au mauvais moment, en fait. Voilà.
Oui, bon, mais ça, c'est ce qui se passe, par exemple, avec le sac de Rome en 1527. Peut-être qu'il y a eu pillage, mais en réalité, les témoignages ne nous parlent pas tellement de pillage.
Pierre Bordeaux de la Sablonnière, là, qui raconte le ciel, qui lui aussi est du niveau des fourriers, c'est pas un noble. Hein, eh bien, il raconte qu'ils n'ont presque rien trouvé à Nègrepelisse, parce que les habitants étaient partis. Quand on leur avait laissé la possibilité de partir, ils trouvent quelques sacs de blé, quelques écus, très peu de choses. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se vengent aussi en massacrant les gens et en brûlant. Ça peut avoir joué. Et plus la chaleur, il faut tenir compte de l'événement canicule qui est signalé partout. Le coup de l'eau, là, il est signalé plusieurs fois, qu'il manque d'eau parce qu'il fait trop chaud, etc. Il le signale souvent, ça. Et il y en a un qui dit aussi, mais c'est le même, Pierre Bourdeau, il dit que quand le pillage se fait, c'est sans que le roi n'y ait consenti, il n'a pas su, en fait, ça s'est déclenché tout seul. Voilà.
Oui, j'avais oublié, voilà, une vue de l'arrière de la maison du roi à Caylus, que peut-être vous verrez demain, et aussi deux souvenirs épigraphiques, mais ça passe pas, que l'on verra demain. Alors voilà, dans l'église de Caylus, la pierre tombale d'une victime des armées royales à Saint-Antonin, Jean de Coligny-Saligny, qui appartenait à la famille de Coligny, mais enfin d'une branche cadette, et chevalier de Malte, qui a donc été inhumé dans l'église de Caylus. Et ça, c'est l'inscription commémorative dans l'église de Caylus que vous pourrez voir, qui a été en partie martelée sous la Révolution. C'est pour ça qu'elle est de lecture difficile, et je vous ai indiqué donc le texte tel qu'il a été reconstitué. Louis XIII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, entra dans la présente ville de Caylux le 14 du mois de juin, ayant posé le siège de Saint-Antonin, ville rebelle à sa majesté, et sorti après la prise le 23 du 10 mois 1722. L'inscription, vous le voyez, est datée de 1723. Voilà. Et encore une fois, là, sous la Révolution, dans l'église qui était devenue temple de la raison, et bien évidemment, l'inscription a été en partie martelée. C'est un souvenir quand même tangible et archéologique du siège que je tenais à vous montrer.
Moi, je vous propose de ne pas interrompre le débat qui a commencé, On devait, vous êtes là autour de nous, on peut continuer à débattre. Simplement, on avait envisagé d'essayer de sortir du contexte d'actualité de notre sujet pour aller plus loin, regarder aujourd'hui ce que signifient les différents concepts qu'on a utilisés, rencontrés, croisés. Vous pourriez, chacun à tour de rôle, essayer de vous livrer à une sorte de projection, évidemment un peu anachronique, à partir de toutes ces réalités qu'on a évoquées, en marquant à chaque fois, vous l'avez tous fait, le datage des faits que vous rapportiez. On est dans une époque et on se tient à l'époque. Là, on vous invite à sortir de l'époque pour voir ce qu'on peut tirer comme, non pas enseignement, mais ni même comme leçon, mais quelque chose de cette histoire. En y réfléchissant avant qu'on fasse ce débat, j'avais deux pistes à vous soumettre, mais ce n'est que deux pistes parmi d'autres sujets. L'un, on l'a évoqué un peu ce matin, c'est le concept de guerre de religion. Je mets religion entre guillemets là. Pourquoi cette question-là ? Parce que la réalité qui est ainsi désignée fait l'objet d'une interprétation des historiens qui n'a cessé d'évoluer, je pense entre le XVIe siècle et le XVIIe, et encore après, et encore aujourd'hui, je pense. On a parlé au XVIe siècle de troubles plus que de guerres. Ensuite, vous nous avez parlé des guerres de voisins qui s'opposent aux guerres de partis qui ont surgi au XVIIe. On pourrait dire que ça continue ensuite par des guerres d'État. Les guerres de Richelieu sont des guerres où les États sont directement concernés, bien qu'on les appelle aussi guerres de religion. Et tout ça, d'ailleurs, sans qu'il y ait séparatisme. Je prends le mot séparatisme parce qu'il a une résonance dans la vie politique française actuelle, comme vous savez. Et pourquoi les guerres de religion est un sujet ? Aussi parce qu'on retrouve peut-être des différences d'interprétation aujourd'hui sur ce que c'est qu'une guerre de religion, quand on parle des questions de l'islamisme, sujet qui est à la fois politique et religieux. Donc on peut dire qu'il y a des résonances actuelles de cette interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre de religion. Et le deuxième thème que je vous soumets, pas plus vierge d'ailleurs après 6 heures de débat, c'est sur la violence des guerres qui sont d'abord civiles et toujours extrême. Est-ce qu'on sait en parler, sauf pour se justifier, comme l'a fait Louis XIII ? Alors, Pierre-Jean Souriac, vous venez d'aborder ce sujet de la mémoire, à l'instant, à travers la notion d'amnistie, qui est très importante pour le vainqueur, pas toujours respectée par les vaincus, mais qui reste un sujet tout à fait actuel dans tous les conflits de cet ordre. Et les traumatismes qui pèsent sur les mémoires, est-ce que le pouvoir a toujours raison de vouloir faire prévaloir le silence, ou au contraire faire du travail mémoriel, comme on sait, ça arrive aussi. Donc là, enfin, vous avez déjà en partie abordé ce sujet, Pierre-Jean, mais je pense qu'on peut continuer peut-être un tout petit peu sur ce thème-là. Voilà, c'est deux idées que je vous soumets, mais pour faire un tour de table dans lequel je vous invite à parler aussi d'autre chose, bien sûr.
Je vais commencer, puisque je suis à côté de vous, rapidement, parce que je ne sais pas trop me projeter dans le présent. Donc moi, j'irai sur les guerres de religion. J'ai l'impression que c'est un débat un peu piégé, parce que guerre de religion, ça signifie que le motif de la guerre est religieux. Et si on dit qu'en réalité, ce n'est pas une guerre de religion, ça sous-entend qu'en fait, on ne se bat pas pour une religion. Or, j'ai quand même l'impression que ces guerres, c'est des guerres pour toutes sortes de motifs, mais qui s'inscrivent dans une vision religieuse du monde. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas en réalité réellement séparer les mots pour cette période, mais je ne suis pas sûr que pour l'islamisme actuel, donc là je ne suis vraiment pas spécialiste, ce ne soit pas la même chose. On ne peut pas réellement séparer des motivations politiques, économiques, sociales, ou tout ce que vous voulez, ou simplement des vengeances entre voisins, ou alors plus au niveau de la guerre peut-être, mais de massacres, de motivations pures qui seraient purement, entre guillemets, religieuse. Je crois que c'était un des points de mon exposé ce matin. Je crois que tous ces gens sont imprégnés d'une certaine vision du monde qui est très marquée par la religion, c'est-à-dire une vision religieuse, parce qu'il y en a énormément, et ils vont couler leur motivation économique, politique ou autre dans cette vision. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et ce qui fait que du coup, ça n'a plus trop de sens de parler de guerre de religion ou de refuser le terme de guerre de religion. Enfin, je ne sais pas quel terme il faudrait employer, mais c'est ou de guerre dans un monde qui est imprégné de religieux.
Signifie pour vous l'emploi du mot séparatisme dans les combats qu'on mène aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui contre le terrorisme islamique, pour dire les choses comme ça.
Oui, sur le séparatisme, j'avoue que moi, je mettrais face à cela la façon dont on a voulu gérer les choses. Mais là, c'est plutôt Pierre-Jean qui en a parlé après l'édit de Nantes. Mais c'est la même chose dans le Saint-Empire, etc. C'est de... Dans l'idée du séparatisme, il y a aussi cette volonté de gommer tout signe religieux dans l'espace public, par exemple. Or, l'ancien régime, enfin, que ce soit en France, vaut mieux pas dire ancien régime, mais en France, en Suisse, dans le Saint-Empire, etc., on cherche à faire coexister les gens sans gommer les signes. Au contraire, ils sont très visibles, mais ça s'accompagne d'une réglementation très précise qui dit que quand on est catholique, on a le droit de faire telle ou telle chose, de faire sa procession dans telle rue, d'avoir accès à tel emploi, ou quand on est protestant, on n'enterre pas ses morts à telle ou telle heure, etc. Donc, dans une ville, le premier consul va être catholique, le deuxième va être protestant, etc. Et donc, on sait exactement ce que chaque religion, ce que chaque membre de religion, mais dûment identifié, a le droit de faire ou ne pas faire. Ce qui est finalement un système qui nous paraîtrait plutôt inconcevable aujourd'hui. Est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est, en France en tout cas, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est moins bon que le nôtre? Bon, l'édit de Nantes, ça a fini par céder, mais ça a quand même fonctionné pendant quelques dizaines d'années. Le nôtre... il ne fonctionne pas parfaitement non plus, alors je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres modèles qui ont été expérimentés, qui ont été sans doute ni mieux, ni moins bons. C'est peut-être à adapter à chaque réalité. Puis, je crois qu'il y avait une autre question, mais du coup, je l'ai oubliée entre-temps. Sur la mémoire, oui, moi, c'est les deux choses un peu contradictoires. Il y a effectivement ce devoir d'oubliance, dont on a parlé, qui est très fort, qui marche bien pour la justice. On ne peut plus faire de procès pour quelque chose. Alors, théoriquement, effectivement, on est censé oublier ce qui s'est passé, mais en même temps, ça s'accompagne du récit de ce qui s'est passé. Du côté protestant, tout protestant a le livre des martyrs de Crespin, qu'ils lisent régulièrement, et donc ils se souviennent forcément de ces massacres. Donc, très ambivalent. On ne peut pas se prévaloir d'une mémoire des massacres pour se venger, mais en même temps, je crois que les populations gardent cela. Après, la question est de savoir ce qu'on en fait de cette mémoire des massacres. Est-ce qu'on l'utilise pour se venger, ou est-ce que, et je crois que les ecclésiastiques des deux camps là, insistent majoritairement dessus, est-ce qu'on le fait pour pardonner à l'ennemi et faire en sorte que ça ne se reproduise plus? Alors, ce n'est pas pour ça que ça ne se reproduira plus, mais voilà.
Par rapport aux questions qui se sont posées, je pense que la première réflexion que j'aurais, c'est la désignation du terme de guerre, qui est une désignation qui est très actuelle. Hein. Les Russes sont en opération de maintien de l'ordre en Ukraine. Le gouvernement français était en opération de maintien de l'ordre en Algérie. Une guerre qui ne dit pas son nom ou une guerre qui dit son nom, c'est un élément qui s'assume. Et si on prend ce qui s'est passé sous... alors, pour Saint-Antonin, est-ce qu'en 1622, Louis XIII assumait le fait qu'il soit en guerre contre ses sujets? J'en suis pas sûr. Il était dans une répression de révolte. Mais ce qui va faire la désignation de la guerre, aussi bien dans les guerres de religion que sous Louis XIII, c'est la paix. En fait, à partir du moment où on négocie une paix, dans laquelle on introduit deux parties, c'est-à-dire qu'en fait une négociation de paix, quand Louis XIII négocie la paix de Montpellier dont Guy nous a parlé tout à l'heure, ou quand on négocie, ça veut dire que le roi va considérer ses sujets révoltés un peu comme un des princes étrangers. Donc c'est tout de suite, hein, c'est transgressif par rapport au rapport d'obéissance. Et donc c'est ce que je disais dans la contrainte de l'édit de Nantes, hein, c'est pas anodin du tout. Mais à partir du moment où on désigne un accord de paix, il y a derrière l'idée de savoir quand est-ce qu'on a fait la guerre. C'est-à-dire que la paix va, un armistice va déposer les armes. Donc ça, on les pose. Mais ensuite, il va falloir savoir ce qui est répréhensible, parce qu'un type qui a égorgé toute sa famille pendant les guerres de religion, c'est pas pour autant qu'il doit échapper à la justice. Donc, il va falloir désigner qu'est-ce qui doit être amnistié. Quand on n'a pas payé ses impôts en France pendant les guerres de religion, au moment des pacifications, les collecteurs d'impôts, ils viennent chercher les impôts impayés parce qu'ils ont des comptes à rendre, qui plus est sur leur propre denier. Donc, et le type qui a payé un impôt au parti protestant, il ne veut pas le payer au roi parce qu'il a déjà payé quand les tailles ont été confisquées. Quel est l'impôt ? C'est-à-dire que dans la politique de pacification, il y a une politique de régularisation. Cette politique de régularisation, elle impose de définir la guerre et les éléments de la guerre. Et, dernier point, elle impose aussi de définir le début. À partir de quand on amnistie ? Pour la paix de Montpellier de 1622, on a amnistié à partir de la prise de Saumur par Louis XIII. Une ville qui a incendié ou qui a massacré une garnison avant le mois d'avril 1621 ne sera pas sous le coup de l'amnistie. Donc en fait, la paix impose de définir la guerre si on veut reconstruire la vie collective. Et je pense, je ne sais pas comment ça va finir en Ukraine, et ça risque de durer des années, mais ce travail-là, je pense qu'il ne pourra pas y avoir de stabilisation de la situation sans que ce travail, rien que de mots sur c'est une guerre, cette guerre elle implique deux protagonistes qui doivent négocier entre eux, et à partir de là, donc je pense que et en France, la mémoire des questions algériennes est une mémoire qui est encore vive aujourd'hui, mais qui s'apaise au moins dans l'historiographie, dans le discours politique qu'on peut avoir, à partir du moment où l'État français a reconnu qu'il était en guerre. Et en fait, il l'a fait 30 ans après, hein, quand même. Donc, vous voyez, c'est des processus qui sont difficiles à assumer parce que une guerre implique qu'on a négocié. Voilà. Mais en tout cas, dans les guerres civiles, dans les guerres de religion, et je pense que dans pas mal de situations où la guerre ne se dit pas, c'est à partir du moment où on construit la paix qu'on définit véritablement l'état de guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les conflits religieux tels qu'on les a étudiés, ils nous présentent un contexte d'affrontement dans lequel on ne peut pas éradiquer l'adversaire. La carte confessionnelle de la France de 1560, c'est la même que celle de 1598, c'est la même que celle de 1650. Les protestants sont un peu moins nombreux, mais ils sont à Montauban, ils sont à Castres, ils sont à Saint-Antonin. Ils sont au même endroit. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, les protagonistes des conflits prennent conscience que la guerre n'a pas d'impact sur cette géopolitique conflictuelle. Pour la France, des guerres de religion, c'est vraiment le massacre de la Saint-Barthélemy. Le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris et les répercussions qu'on peut avoir à Toulouse, il y a vraiment l'idée d'une purge. Et il y a vraiment une pensée génocidaire. C'est-à-dire... On va tuer le maximum et les autres vont se convertir. Et il y a une pensée qui est d'éradication totale. Or, chez les catholiques, bien sûr, oui, chez les catholiques. Mais après la Saint-Barthélemy, de fait, on s'aperçoit que ça on n'y arrivera pas, que les opérations militaires ne font pas changer les choses. Et donc, en fait, on commence à penser les affrontements religieux en devant accepter l'altérité. Et donc en fait, et c'est là où on va basculer vers une acceptation globale de l'autre en religion. Et l'édit de Nantes, c'est pas un édit de liberté religieuse, c'est un édit qui donne des droits, mais qui accepte l'altérité. Pour rebondir sur ce que disait la question d'Yves, sur la question du séparatisme par rapport à ce qu'on vivait à cette époque, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même référent lié au droit. Aujourd'hui, ce qui fonde notre système politique, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est nos libertés. Et le législateur n'intervient dans la loi que pour restreindre ces libertés. Et cette restriction de liberté, elle doit être légitimée pour un motif collectif supérieur. Voilà. Je dois m'arrêter au feu rouge. C'est une atteinte à ma liberté, mais c'est une atteinte à ma liberté qui me permet de circuler sur la route. Donc, alors que, sous l'Ancien Régime, on n'est pas dans une idée de liberté fondamentale des individus, on est dans une idée que le roi octroie des droits à ses sujets. Vous voyez, donc en fait, la démarche, ce n'est pas du tout la même. Donc ça, on ne peut pas la transférer. Par contre, cette question du regard sur la liberté, et le législateur défend la liberté, elle pose la question de la laïcité. La laïcité telle qu'elle est pensée en 1905, c'est une laïcité bienveillante. c'est une laïcité d'expression où chaque communauté religieuse est une communauté religieuse qui a un droit d'expression tant que le législateur ne vient pas dire que c'est excessif comme point d'expression. Mais la laïcité telle qu'elle est pensée en France au XXe siècle n'est pas une laïcité militante qui vise à interdire telle ou telle religion, mais au contraire qui vise à réglementer dans l'espace public des voisinages confessionnels, des voisinages religieux. Et c'est ce que disait Yves Krummenacker, et là ça rejoint quand même un petit peu le règlement des conflits religieux. Je dirais que pour moi le seul problème à ce niveau-là, c'est que cette laïcité, elle a été pensée dans une société globalement catholique. Et que cette société globalement catholique... Ben oui. C'est vrai.
Cabanel dirait qu'elle a été pensée essentiellement par des protestants, Ferdinand Buisson et autres.
Oui, oui, et même Émile Combes. Mais par des... Oui, elle a fait le séminaire, c'est vrai. Oui. Mais dans tous les cas, ou alors mettons par une société chrétienne. Mais ça veut dire que c'est quand même une société dans laquelle le pouvoir public finance les églises, dans laquelle le statut des membres du clergé, d'un certain nombre de pratiques religieuses, de sanctuaires chrétiens, sont pris en charge par l'État, sont acceptés par l'État. Or, quand on a une minorité religieuse qui ne se sent pas reconnue au même titre, et c'est ce qui se passe avec l'islam à partir des années 80, hein, à partir de la question du voile, à partir de la question des mosquées qui manquent pour les pratiques religieuses de l'islam en France dans les années 80, est-ce que cette laïcité donne les mêmes droits aux mêmes communautés religieuses? C'est-à-dire qu'avant la question du séparatisme, pour moi, la question que doit se poser le législateur, c'est si on veut respecter cette laïcité bienveillante, c'est d'avoir une communauté civique aujourd'hui dans laquelle le poids du christianisme a diminué, le poids de l'islam a augmenté, et pour autant, on est dans un système qui a été pensé d'abord dans un cadre de dominante chrétienne. Pour moi, l'enjeu, il est là, et il est là pour nos politiques. Et il est là, y compris... enfin, moi, et là, c'est ma conviction personnelle. Moi, je suis pour qu'on construise des mosquées et pour que dans ces mosquées, il y ait une... et que l'État l'entretienne au même titre qu'une église. Voilà. Et la question... Mais je pense que la question du séparatisme, elle se pose autour de la question de l'acceptation de l'altérité et jusqu'où la loi réglemente cette altérité.
Il me semble qu'on avait posé aussi la question des mémoires, non? Oui. Là-dessus, peut-être, je me permettrai de dire ceci, c'est que la mémoire de ces terribles affrontements, de ces guerres, allez, lâchons le mot quand même, de religion, parce que quand il y a tant de morts, c'est difficile de dire que ce n'est pas des guerres quand même. Effectivement. C'est une mémoire très inégale. Du côté, si je regarde les trois grandes traditions qui peuvent être concernées, du côté catholique, ces violences, elles n'ont, à partir d'un certain moment, elles ne sont plus revendiquées, elles ne sont plus justifiées. Et donc, on va préférer les oublier. Moi, je suis très frappé du fait que chez les auteurs, notamment ecclésiastiques, mais pas seulement, on ne reprend pas, on ne réexamine pas, effectivement, la part de responsabilité qui a pu échoir, soit à des hommes, soit à des ecclésiastiques, soit à des politiques, soit à des... Voilà. Et d'une certaine manière, ça s'est dissous dans une certaine amnésie. À l'inverse, du côté des protestants, cette mémoire est restée très vive. Et il y a des lieux de mémoire, on parlait à midi du Mas Soubéran, il y a le musée de Ferrières que vous évoquiez, et il est certain que, je pense, que, y compris chez nos concitoyens dans les familles protestantes qui ont pu subsister jusqu'à la fin du XXe siècle, le souvenir et l'évocation de ces guerres, des victimes, etc., revenait et était réactivé à chaque génération. C'est un peu le témoignage, par exemple, que j'avais pu recueillir de Jeannine Garrison, qui était issue d'une de famille, vieille famille protestante de Montauban. Donc, d'un côté, mémoire évacuée, je dirais, et de l'autre, mémoire entretenue. C'est quand même deux choses différentes. Et puis, alors, il y a le côté, si vous voulez, du consensus républicain, je dirais, effectivement, qui va prendre corps avec la loi 1905, mais enfin qui se prépare avant, dans une république qui a quand même subi elle-même, à l'origine, une très violente crise avec la répression de la Commune, quand même, il faut le rappeler, il n'a pas été une petite chose. La république a beaucoup de mal, notamment dans ses doctrinaires, dans ses idéologues, dans les enseignants de l'époque, quand on prend même Lavis, etc., durcir les angles. On préfère envelopper le tout dans une mémoire qui cherche un consensus, je ne dis pas forcément dans l'oubli, mais enfin dans une prise de recul considérable. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, il n'y a pas eu de la part d'un gouvernant français républicain une initiative pour commémorer, par exemple, le massacre de la Saint-Barthélemy. Si ? Il y en a eu ? Ah bon, alors je me trompe. Et j'avais l'impression, si vous voulez, qu'on préférait renvoyer ça dans des films, dans des romans, mais pas en faire un sujet d'actualité. Mais je me trompe.
Alors, je peux intervenir juste sur ce point, parce que je pensais voir en disant qu'il y a aussi une question annexe, c'est faire mémoire, mais qui doit faire mémoire ? Et dans la question de la Saint-Barthélemy, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tant que ça chez les protestants. Quand on essaye de voir le nombre de titres dans la revue de référence, hein, le bulletin de la Société d'histoire du protestantisme français, il est beaucoup plus question de la période du désert, 18e siècle, des guerres de religion en général, que de la Saint-Barthélemy. Et je me dis pourquoi ? Parce que la Saint-Barthélemy, c'est des gens qui sont massacrés, c'est la faute de l'Église. Oui, dans toute cette littérature, on insiste beaucoup là-dessus, mais ces protestants massacrés, ce n'est pas, d'une certaine manière, des héros de la foi. Enfin, ils sont morts parce qu'ils étaient protestants, ils avaient malchance d'être sur le chemin catholique, ce n'était pas pour proclamer leur foi qu'ils ont été massacrés, contrairement à ceux qui sont morts pendant la période du désert. Du coup, c'est plutôt cela qui était mis en avant. Alors, il y a eu des choses sur la Saint-Barthélemy. Il y a eu une première commémoration importante en 1889. Et c'est la République qui a fait ça. C'est comme ça que la statue de Coligny a été mise devant l'oratoire du Louvre. Depuis peu, et même il y a très peu de temps où ça va être fait, je ne sais plus si c'est... il y a le jardin pour la Saint-Barthélemy. Il y a deux manifestations commémorant la Saint-Barthélemy. C'est une plaque commémorant Saint-Barthélemy. Donc ça devait être en 2012, je pense, pour un anniversaire. Non, c'était... Alors, 2022, non. Mais l'autre, enfin, c'était avec Anne Hidalgo, déjà maire de Paris. Donc une initiative de la mairie de Paris, alors qui a demandé conseil aussi aux autorités protestantes. Mais l'initiative venait de la mairie de Paris, et là, tout récemment, un jardin en face du Louvre également. Et là aussi, c'est une initiative de la mairie de Paris. Ce qui fait que je me dis que là, ça prend un autre sens. C'est plus la personne morte pour sa foi qu'on va commémorer, c'est les victimes du fanatisme ou de l'intolérance. Et du coup, là, c'est un devoir de mémoire, je dirais, de la République, et plus simplement d'une communauté religieuse. Donc, je crois qu'il y a aussi cette question qui est importante à voir.
Ça concerne, donc, l'initiative revient à la mairie de Paris, c'est quand même pas au niveau de l'État, sauf peut-être la statue de Coligny. Voilà. Et concernant l'Église catholique, si vous voulez, je voudrais faire un rapprochement, une comparaison. Dans le mouvement dit d'écuménisme, qui s'est développé à partir et autour du Concile de Vatican II. Je n'ai pas connaissance de grandes initiatives entre l'Église catholique et les Églises protestantes pour échanger et éventuellement, j'allais dire, eh oui, d'entreprise mémorielle. Et j'opposerai ça, par exemple, au fait que l'Église catholique a fini par quand même se prononcer sur un de ses passés les plus sombres, à savoir l'Inquisition. Et c'est le pape Jean-Paul II qui avait fini, sous la pression de plusieurs historiens, par réunir une conférence, un congrès assez prolongé, avec des historiens et études notamment de l'Inquisition espagnole. Et c'était après la transition démocratique en Espagne, je m'empresse de le dire, et un peu dans ce contexte aussi. Et finalement, il y a eu une déclaration pontificale pour battre la coulpe de l'Église catholique, si vous voulez, sur cette question. Alors, sur la question des guerres de religion et des responsabilités des uns et des autres, jamais il n'y a eu une tentative d'échange pour dégager, sinon une vision commune, du moins, des critères d'appréciation que l'on puisse partager. Je n'en ai pas connaissance.
Juste un élément là-dessus, c'est l'Assemblée du désert de 1972, où étaient présents l'archevêque de Rennes et le cardinal Marty, et qui ont demandé pardon. Alors, c'est au niveau de prélats français. C'est pas la papauté, c'est pas le même niveau qu'une déclaration pontificale, effectivement. Mais ils ont été invités et ont demandé pardon au nom de l'Église. C'est le seul cas que je connaisse sur les guerres de religion. C'est pas énorme, mais c'est non, mais c'est pas complètement négligeable. Effectivement, par rapport à la demande de pardon, par rapport à l'Inquisition, à conquête de l'Amérique latine et l'évangélisation forcée, etc., c'est beaucoup moins. C'est pas tout à fait inexistant quand même. Voilà.
Et pour compléter, quand le pape Jean-Paul II est venu à Paris en 97, je crois, il a célébré une messe à Paris le 24 août. Et je crois qu'il a commencé, j'en suis même sûr, il a commencé à prêcher sur la Saint-Barthélemy et sur les moments funestes qu'avait connu la ville. Alors, il n'y a pas demandé pardon, hein, mais en tout cas, ça a été évoqué. Donc, je pense que c'est perlé. Moi, alors, c'est une question. Hein, est-ce que si l'Église ouvre le livre des violences qu'elle a fait subir à des minorités religieuses, les protestants, mais est-ce que ce n'est pas ouvrir une boîte incontrôlable et des siècles de repentance ?
Pierre-Jean, en Irlande, la mémoire chez les catholiques de ce qu'ils ont subi de la domination protestante anglaise est singulièrement vivante, quand même. Et là, de nombreuses manifestations. Donc, je veux dire qu'il y a manière à balayer devant pas mal de seuils, quand même.
Je pense qu'il y a beaucoup de seuils à balayer, mais c'est peut-être ça qui fait hésiter l'Église. Mais j'en sais rien, ça. Voilà. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Yves Krummenacker, je pense que la mémoire protestante de la persécution, elle est plutôt propre aux dragonnades et au désert qu'aux guerres de religion. C'est le travail de Philippe Joutard sur les Cévennes. J'ai quand même l'impression, quand on va à Ferrières, quand on va à Mielet, que les éléments de mémoire chez les protestants, c'est vraiment le choc de la révocation de cette trahison, en fait, du non-respect de la parole tenue, plutôt que les événements des guerres de religion. Et en fait, d'une certaine manière, c'est assez logique avec l'historiographie, puisque quand on commence à écrire l'histoire des guerres de religion dès le XVIe siècle, c'est toujours des historiographes du roi qui écrivent à la demande du roi et au moment où le roi essaie de réconcilier les deux communautés religieuses. Et donc, on ne va pas écrire l'histoire des guerres de religion comme étant un affrontement de catholiques et de protestants, mais on va les écrire comme étant une instrumentalisation du religieux à des fins politiques. C'est les Guises contre les Bourbons, c'est des intérêts privés. Et de fait, et avec Henri IV et l'Édit de Nantes, c'est la même chose. Hein, l'histoire des guerres de religion écrites, on parlait de Scipion Duplex tout à l'heure, ou quand il écrit le règne d'Henri III, parce qu'il fait aussi un livre sur Henri III, Duplex, la question religieuse est présente, mais c'est pas ça qui anime le sens de l'histoire. Et donc, on a une histoire des guerres de religion qui est, de fait, sans religion, ou avec très peu de religion. Et ça va marquer durablement l'historiographie, finalement, jusqu'au milieu du XXe siècle. Hein. C'est la génération de... c'est votre génération d'historiens qui ont réhabilité le religieux des guerres de religion, justement en sachant que c'est une focale parmi d'autres. mais qu'on ne peut pas évacuer, hein, ce que disait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire que si on dit que ce n'est pas des guerres religieuses, ça veut dire qu'on évacue le religieux. Or, il y a du religieux, mais le religieux n'est pas exclusif. Mais ce retour du religieux dans la lecture des guerres de religion, ça date des années 1970-1980. Avant, on avait quand même l'histoire des religions. Regardez les grands livres d'histoire des guerres de religion de Lévi Mirepoix, même de Pierre Miquel encore au début des années 80. C'est des conflits aristocratiques et des conflits sociaux. C'est pas vraiment des conflits religieux. Et donc c'est pas surprenant que la mémoire protestante, qui a participé aussi à cette historiographie, l'ait pas intégrée. Par contre, les dragonnades, ça, c'est religieux d'entrée. Et c'est assumé comme tel. Voilà.
Je prends la parole pour trois petits points que j'ai par rapport à ce qui s'est dit là, dans ce débat. Le premier, c'est sur les réconciliations à la fin d'une guerre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un cas particulier des guerres dites de religion. Moi, j'ai vu dans le monde tant de guerres suivies de soi-disant réconciliations qui n'en étaient jamais. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu, et le vainqueur est lui-même à des chefs qui sont dépendants de ceux qui l'ont aidé à vaincre et auxquels il ne peut certainement pas imposer un traitement égalitaire qui serait la condition de la réconciliation. L'ONU connaît ça par cœur. Les réconciliations après-guerre sont très difficiles, et je pense que c'est exactement pareil pour les guerres de religion dont nous parlons, qu'elles soient de religion ou pas d'ailleurs. Deuxième point, c'est sur la laïcité. Ce n'est pas tout à fait notre sujet en vérité, mais je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Pierre-Jean Souriac tout à l'heure à ce sujet. Je ne vois pas dans le combat de la laïcité des années de la séparation, ou même du combat des républicains avant, ou des combats d'aujourd'hui pour la laïcité, quelque chose qui soit véritablement apparenté aux guerres de religion. La laïcité n'était pas une religion, même Robespierre ne le croyait pas, je pense. Et les républicains non plus. Donc vraiment, c'est un sujet un peu différent. Et dans ce sens, c'est vrai que le mot séparatisme qui a été utilisé par le législateur récemment nous induit en erreur. On est d'accord là-dessus. Et dernière chose sur la mémoire, moi, j'ai en tête des concepts juridiques qui font la distinction entre le pardon et l'oubli. La grâce, c'est le pardon sans oubli. L'amnistie, c'est l'oubli. Et je sais pas, je pense que les monarques de notre histoire des guerres de religion française ont dû faire cette distinction. Il y a dû y avoir des grâces, il y a dû y avoir des amnisties, des clauses d'amnistie. Il y en a dans les paix successives avec un succès inégal. Dans tous les cas, que ce soit grâce ou pardon, c'est des actes qui sont dans la main du vainqueur à la fin d'une guerre qu'on veut conclure par une paix, peut-être par une réconciliation si on y croit. Et c'est intéressant de savoir si on a utilisé aussi le concept de grâce. Oui, Pétain a été gracié, il n'a pas été amnistié. C'est juste un exemple, on n'a pas voulu oublier non plus. Et on le sait bien encore aujourd'hui. Il y a d'autres exemples de ça. Je ne sais pas si dans votre connaissance de l'histoire des guerres de religion, on a utilisé cette distinction.
La paix d'Alès, c'est l'édit de grâce d'Alès, parce que Louis XIII est vainqueur. Il y a eu le massacre de Privas, il y a eu le siège d'Alès, il y a eu la fin du siège de La Rochelle. L'édit de Nantes, c'est pas un édit de grâce, c'est un édit de tolérance au sens souffrance. Dans la préambule de l'édit de Nantes, le roi dit « Je vais souffrir l'existence de deux religions dans mon royaume, sachant que la vraie religion, c'est la religion catholique. » Donc là, on n'est pas du tout dans la même logique. En fait, les édits de pacification jusqu'à l'édit de Nantes sont des édits de négociation et compliqués. Donc du coup, d'où l'amnistie, d'où l'amnésie, d'où plein de choses. Effectivement, Louis XIII, c'est plus vertical, oui.
Moi, j'ai une question. J'ai une question. Vous raisonnez en historien et vous cherchez comment cette mémoire circule ou est oubliée. Bon, c'est de bonne guerre, j'allais dire. Mais à partir du XIXe siècle, il y a quand même le roman, la littérature, qui s'empare de ces périodes-là. On a des mousquetaires avec Richelieu, etc. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des romanciers qui ont situé des héros, des batailles, dans cette période-là, dans cette conjecture-là, au point d'en faire des héros ?
Oui, moi je reste quand même sur ma faim, sur l'idée quand même qu'il y a une manière d'exprimer la toute-puissance royale, et cette manière qu'ont les rois de France descendent dans le Midi pour nous écraser, qui est quand même qui se renouvelle là. C'est-à-dire qu'on a chaque fois d'abord une haine qui se manifeste, il y a une continuité, c'est évident. Et c'est évident qu'on ne peut pas sortir de cette idée qu'il y a une volonté de mater, d'écraser cette terre du Sud, et ça se manifeste à travers la puissance militaire. Bon, c'est Poutine, hein, bon, je veux dire, c'est Louis XIII, c'est Poutine, hein, ce gars-là, pour moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Et après, il y a le côté religieux, donc on en a parlé, mais le côté fanatique, c'est-à-dire que l'autorité du roi, il est sacré, hein, c'est-à-dire le personnage sacré du roi qui est toujours resté, hein, comme une image, et qui doit imposer sa loi à ses sujets, et qui, en même temps, donc, peut aller jusqu'à la mort. Et donc, cette justification de la violence, elle se fait quand même idéologiquement. Il y a le côté fanatique, il y a le côté biblique sur lequel on s'appuie, et il y a le côté incontrôlé. Alors ça, c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma communication. Il y a des moments où, comme dans toutes les fois, c'est ce que j'appelle les croisades, moi, hein, c'est le tuer les tous, c'est-à-dire que l'idéologie de croisade, c'est pas de quartier. Donc, et là, on le voit, ça se vérifie, c'est-à-dire c'est la continuité exacte de ce qu'a été, premièrement, la prise de Jérusalem du 15 juillet 1999, où ils arrivent, ils massacrent tout le monde, et ils nageaient. Il y a un endroit où ils disent que dans Négropolis, bon, dans les récits, ils avaient des cadavres partout, et après, tu as le roi qui termine en allant à la messe. Hein, c'est-à-dire, et à Jérusalem, ils entraient tout dans le Saint-Sépulcre, etc., et ils rentrèrent tout joyeux pour célébrer notre Seigneur, etc., alors qu'ils avaient massacré tout le monde. Bon, il y a un peu cette rage meurtrière, vous voyez, d'origine biblique incontrôlable, qui se retrouve. Le deuxième massacre, donc, c'est celui de Béziers, donc, dont j'ai parlé, avec ce même principe. Et il y a un côté résistance que je retrouve aussi, c'est celui de Montségur, c'est-à-dire que il y a du côté des assiégés une ténacité, une force, une énergie qu'on a retrouvée à Montauban, qu'on a retrouvée à Saint-Antonin, où ils ont résisté 8 jours et où ils ont tué quand même 400 soldats, 400 rois, etc. Et il y a un épisode qui se situe un peu après, à Bruniquel, où nous avons le récit de la prise de Bruniquel, où les gens qui sont assiégés, comme à Montségur, font descendre, ils réussissent avec des paysans du coin à faire passer des vivres, de l'alimentation, etc., pour soutenir les gens qui sont assiégés dans Bruniquel avec une force extraordinaire aussi grande qu'à Montségur. Et ça, c'est un esprit de résistance qu'on retrouve à toutes les périodes et qui mérite d'être souligné. Et à mon avis, c'est des continuités. Vous voyez ? Allez, non, là, on ne les a pas brûlés, non. Et ensuite, il y a le côté aussi irrationnel. C'est le fait, par exemple, de tout ce qui est la lubricité, c'est-à-dire les femmes qui passent à la casserole automatiquement, je veux dire, ça c'était dans tous les sièges. Ça fait partie de la violence habituelle des soldats, et que là on souligne quand même chaque fois, hein, donc en y ajoutant ce côté lubricité pour essayer de s'excuser ou j'en sais rien, et qui tourne. Donc, ça c'est des thèmes qu'on trouve dans la tragédie antique, hein. Moi j'ai été très marqué par les cours à l'époque du professeur Lacombrade, quand il nous expliquait les tragiques grecs, et dans le thème de Médée, hein, qui dépèce tout le monde, etc., et avec ce côté barbare, etc., et sanguinaire, et le côté aussi des femmes, donc irrationnelles, etc., et qu'on retrouve dans certains récits des chroniqueurs du XVIIe siècle. Hein. Et j'ai cité quelques épisodes, mais je crois que c'est une constante, vous voyez, de tous ces événements tragiques et dramatiques, qui se situe dans une même continuité de fureur, de violence incontrôlable. Hein, au bout d'un certain moment, c'est incontrôlable. Tout à l'heure, Jean-Pierre Marie nous a cité, il a employé le mot de haine, hein, il a employé le mot très fort, cette haine qui existait entre les deux communautés, qui fait qu'il y avait le souvenir, en effet, ce qui s'était passé avant, donc particulièrement ici, dans la région de Caylus, avec les prêtres qui avaient été tués, et c'est peut-être ça qui explique aussi cette violence en retour.
Vous nous rappelez que la mémoire des vaincus et la mémoire des vainqueurs ne se rejoignent pas facilement.
Pour répondre en partie à la question, mais toute petite partie, parce que je dirais que sur les guerres de religion, il y a quand même toute une littérature fin 18e, 19e, romans, alors beaucoup centrés autour de la Saint-Barthélemy, romans, pièces de théâtre avec Chénier par exemple, donc des romans, on a parlé d'Alexandre Dumas, il y a Mérimée. Il y a des opéras, les Huguenots de Meyerbeer, par exemple, qui a un immense succès d'opéra au 19e. Donc il y a quelque chose, mais qui proclame plus la tolérance, ou alors c'est les grandes aventures romanesques. Ce grand opéra, les Huguenots, Meyerbeer est juif d'origine, et il n'a pas d'intérêt pro ou anti-catholique ou pro ou anti-protestant. Enfin, alors, sur un autre plan de la littérature, moi j'avais étudié de manière un peu précise la littérature jeunesse des années 70-80, ou peut-être même 90, que lisaient mes enfants, donc des romans pour adolescents. Et c'est à peu près toujours le même schéma, c'est un jeune catholique qui aime une jeune protestante, ou inversement, plutôt au moment de la révocation de l'édit de Nantes, donc ils sont empêchés dans leurs amours, et puis finalement ça se finit bien, parce que l'amour triomphe de tout, et on se rend compte qu'il y a quelques ecclésiastiques, alors c'est les catholiques évidemment qui sont accusés, vu la conjoncture, de quelques méchants ecclésiastiques catholiques, mais on voit globalement la population n'est pas spécialement hostile. Alors il y a quelques clichés catholiques ou protestants, mais globalement c'est des messages de tolérance, et on a l'impression que ça s'adresse à des jeunes qui ne comprennent pas les enjeux religieux, ou qui sont pas prêts des enjeux militants religieux. En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est ça. Ensuite, autre chose, alors qui est en partie lié, mais là on quitte un peu la littérature. Je suis assez marqué par la lecture que je fais actuellement du livre de Patrick Cabanel, La fabrique des Huguenots, où il montre bien que cette histoire des Huguenots a en grande partie disparu au 18e en France, ne serait-ce que parce que le protestantisme est interdit, tout simplement. Donc ça réapparaît à l'extrême fin du 18e, 19e, et là, il étudie systématiquement les pasteurs historiens, à la fin du siècle plutôt, enfin, milieu du siècle, la naissance de la Société d'histoire du protestantisme français, les musées protestants, etc. Et on a l'impression, et c'est ça qui est très fort, quand on a lu, à la fin de chaque chapitre, on a l'impression d'une répétition du chapitre précédent, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à la même conclusion, ou à peu près, c'est que c'est le désert qu'on met en avant, c'est ce que disait Pierre-Jean, finalement pas énormément de choses sur le 16e, et le 17e encore moins, et où, même quand ça se passe mal au 17e, Saint-Antonin, Nègrepelisse, il ne faut pas, c'est quasiment absent de cette mémoire, c'est vraiment le désert, et il l'explique effectivement par c'est le moment où des gens se battent pour leur foi et ne sont pas simplement assassinés pour ce qu'ils sont. Donc ce n'est pas de simples victimes, c'est aussi des héros positifs. Et c'est ça qui est mis en valeur et qu'on retrouve aussi dans des romans populaires, alors plutôt d'origine protestante, de cette période. Donc il y a vraiment une construction de mémoire, et d'une mémoire qui ne correspond de manière imparfaite à l'histoire telle que les historiens essayent de la monter. Alors, ce n'est pas complètement en désaccord, hein, évidemment, mais on voit qu'on retient certains éléments et puis on en oublie d'autres.
Toujours sur la question littéraire, enfin, pour être un peu plus contemporain, c'est le phénomène Charlie IX de Jean Tellet. C'est le roman qui sort au début des années 2010, qui donne lieu à une bande dessinée en plusieurs volumes, très, très sanglante, qui donne lieu à une pièce de théâtre qui a été montée à Lyon, au Théâtre des Marronniers. Et je me demande s'il n'y a pas une préparation d'un film sur Charlie IX. C'est-à-dire que, voilà, alors après, on aime ou on pas, hein, on aime ou on n'aime pas Jean Tellet, la question n'est pas là. Mais en fait, pour moi, c'est quand même la preuve qu'on écrit encore sur ce sujet-là, et qu'on multiplie les supports de production artistique. Donc il y a une tradition de romans populaires qui se renouvelle. La BD tirée de Charlie IX, elle est, y a beaucoup de sang pour la Saint-Barthélemy, c'est une évidence.
Bon, mais je voudrais quand même peut-être vous rappeler une anecdote assez curieuse sur la mémoire de Louis XIII chez les protestants. On pourrait s'attendre à ce qu'il ait été l'objet d'une vindicte terrible. Hein? Oui, mais ce que j'avais découvert il y a quelques années, C'est les origines du célèbre tableau de Ingres que nous conservons à Montauban, Le vœu de Louis XIII. Vous savez que ça a été une commande du gouvernement de la Restauration de Louis XVIII. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quel est le ministre qui avait été chargé de suivre l'affaire. C'est le seul ministre protestant qui était le baron Portal. Et on a retrouvé des échanges de lettres. Donc un protestant qui avait survécu lui-même à la Révolution, dans des conditions d'ailleurs un peu complexes, mais qui se met au service de la monarchie restaurée, ben, il n'hésite pas à contribuer à cet hommage un peu, de toute façon, curieux à cette époque-là, à un roi qui, il faut le dire, avait quand même des choses à se reprocher envers les protestants.
Je voudrais remercier nos intervenants, tous, qui ont passé du temps pour venir ici, du temps pour préparer leurs interventions et pour nous les faire, et participer enfin à un débat comme celui-là. Je comprends qu'on pourrait refaire l'année prochaine un débat sur la mémoire du protestantisme. Ça, c'est un colloque à soi tout seul. Mais merci en tout cas à vous tous. Et venez dîner.